19h22 sur France Inter, voici le téléphone sonne Europe en direct de Strasbourg. Oui, vous nous recevez. Bonsoir Stéphane Leneuf.
Bonsoir à tous, merci beaucoup.
France Inter, le 18-20.
C'est une petite phrase d'Angela Merkel qui résume bien le débat. Les demandes de redistribution sont toujours plus fortes en période de vaches grasses. Les chiffres sont bons, la croissance revient en Europe, sans doute plus de 2% en 2017 pour la zone euro. Selon les experts, c'est du jamais vu depuis 10 ans. Les entreprises investissent portées par le très bon contexte international. Premier effet vertueux, l'emploi est à un niveau record, un petit peu plus de 8% pour la zone euro. Tout cela amène plus d'argent dans les caisses des États. Bien sûr, en France, en 2018, la croissance pourrait rapporter 4 à 6 milliards d'euros. On n'évitera pas le débat sur la cagnotte fiscale, même si Édouard Philippe a d'ores et déjà dit que cette cagnotte ne serait pas redistribuée. En Allemagne, des économistes demandent au gouvernement de redistribuer les fruits de cette croissance sous forme de baisse d'impôts. Le syndicat IG Metall a demandé même carrément une augmentation salariale de 6%. Il y a eu un accord aujourd'hui, on va en reparler au cours de cette émission. Et puis évidemment, la grande question, c'est donc comment répartir les fruits de la croissance en Europe. C'est le thème du téléphone. Téléphone sonne ce soir sur France Inter en direct du Parlement européen à Strasbourg. C'est jusqu'à 20h. Et au 01 45 24 7000, on retrouve Frédéric qui nous appelle de Pau. Bonsoir Frédéric, on vous écoute.
Oui, bonsoir à tous. Alors, en somme, l'a bien dit, hein, 82% de la richesse créée en 2017 est allée à 1% de la population. Donc, on voit bien à qui profite de la croissance. Mais au-delà de à qui profite de la croissance, moi, je voudrais poser une question. Quand va-t-on enfin cesser de parler de croissance en sautant comme des cabris en créant croissance. Relisons donc ce que nous dit le GIEC, relisons ce que nous dit Jean Jouzel avec Pierre Lavoutureau. Nous sommes vers une tendance de plus 3 degrés. Alors je voudrais demander aux invités, quand est-ce que l'on va commencer à cesser de parler de croissance qui est mortifère et parler plutôt de décroissance et de partage, en partageant bien entendu non seulement avec les plus pauvres dans nos pays développés, mais en partager également avec les pays les plus pauvres qui en ont bien besoin.
Merci Frédéric, vous nous appelez de Pau. Bonsoir à mes trois invités ici qui vont vous répondre. Ingeborg Gräßle, bonsoir madame. Bonsoir. Groupe du Parti Populaire Européen Allemande. Enrique Calvé-Chambon, eurodéputé espagnol du groupe de l'Alliance des Démocrates et Libéraux pour l'Europe. Bonsoir.
Bonsoir.
Et Emmanuel Morel du groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes France.
Bonsoir.
Bonsoir. Question donc de Frédéric, quand est-ce qu'on va arrêter de parler de croissance, parler de décroissance? Est-ce que c'est la bonne question? Qui veut répondre? Madame Gräßle.
Je crois que c'est une très bonne question, mais il ne faut pas noircir l'image plus qu'elle ne l'est. Je crois que c'est une bonne nouvelle qu'il y a la croissance, qu'il y a de quoi répartir. Et maintenant, la question est de savoir ce qu'il faut faire pour vraiment pour affronter l'avenir. Je crains qu'on a beaucoup de défis dans l'avenir. C'est pour ça qu'il faut vraiment bien réfléchir si, ce qu'on fait pour l'éducation, pour le numérique. Voilà, l'infrastructure dans les États, c'est pour ça que je crois que le partage avec le tiers-monde, c'est quelque chose de très important, mais je crains que si on délivrait enfin les 3% du PIB, ce serait déjà quelque chose.
Emmanuel Morel, Frédéric parle de décroissance, il faut arrêter de sauter comme un cabri, hein, reprenant l'expression historique de De Gaulle sur l'Europe, là il faut arrêter de dire croissance, 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 parce que finalement il n'a pas tout à fait tort.
Il soulève Frédéric. Deux points qui me semblent intéressants. D'abord, il a pointé dès le départ l'explosion des inégalités et le fait que les richesses sont très mal réparties. En effet, 82% de la richesse produite au niveau mondial bénéficie à 1% des gens les plus riches.
Alors autre et chiffre, ça, je vous interromps, oui. 10% des plus riches s'accaparent 37% du patrimoine global, ça c'est pour l'Europe.
En effet, mais ça montre bien qu'on a des inégalités qui rendent la vie en société difficilement vivable. Et puis il pose une autre question sur la croissance. Moi je ne dirais pas décroissance, mais je dirais alter-croissance, autre croissance, c'est-à-dire une croissance respectueuse de l'environnement, respectueuse des impératifs écologiques. Et ça, c'est possible, pourvu qu'on investisse dans les innovations technologiques. L'Europe le fait, mais à mon avis, de façon très partielle. Et on est suffisamment riche en Europe, on a suffisamment d'argent pour investir davantage dans la croissance verte. Donc je ne dirais pas décroissance, mais je dirais une autre croissance. C'est possible, et c'est possible dès maintenant.
Monsieur Calvet-Chambon ?
Oui, alors Monsieur Morel a dit beaucoup de choses que j'allais dire, donc ça, nous sommes d'accord. Il y a deux grands sujets. Moi, plus que les inégalités, qui sont évidentes, et ça me soucie depuis que je suis entré ici et même avant, c'est surtout la dynamique inégalitaire. Nous avons vécu une crise absolument faramineuse. Ça a demandé le sacrifice à tout le monde, certainement, mais on en sort avec une dynamique année après année qui augmente les inégalités. Et c'est ça la perception qu'ont les personnes. Elles ont le droit de demander que ça ne se fasse pas comme ça. Et je les appuie totalement. Il faut absolument corriger cela parce que ça peut arriver. C'est ça qui finalement arrive même à décrocher de la démocratie. Maintenant, une autre chose, c'est la décroissance. Alors là, il faut faire très attention. Non, je ne sais pas ce qu'on appelle décroissance. Je ne sais pas si au niveau mondial. Mais par exemple, l'Espagne, au bout de 10 ans, elle est enfin venue au même PNB, produit national brut, qu'il y avait en 2007. Ça s'appelle une décroissance. C'est-à-dire qu'on a décru et maintenant on arrive à être au même niveau. Résultat, 16%, 17% de chômage en ayant eu des trucs 25. Alors, décroissance, non. Le faire mieux, et surtout voir de quelle zone géographique on parle, etc. Le faire mieux, sans doute, mais on ne peut pas... Qu'est-ce que ça veut dire la décroissance ? On va aller en arrière comment ? Non, non, ça c'est très dangereux. Lady de Gaulle ou Agamemnon.
Alors, on a tous compris qu'il fallait effectivement une autre croissance, mais vous avez posé le vrai problème, c'est comment aujourd'hui on réduit les inégalités.
Oui.
Manuel Morel.
Comment réduit les inégalités ? Bah, déjà,
en Europe, au niveau européen.
Il y a quand même un vrai problème, c'est que dans les deux... J'ai un retour terrible.
Oui.
Dans les deux dernières décennies... Le capital a été incroyablement mieux rémunéré que le travail. Mmh. Et donc, la vraie question, c'est de revenir sur cette répartition inégalitaire entre capital et travail. Et ça passe par des mesures toutes simples, mais il en faut la volonté politique. C'est d'abord l'augmentation des salaires. Et c'est pour ça que moi, je souscris complètement à la campagne qui est menée par la Confédération européenne des syndicats pour l'augmentation des salaires. Mais c'est aussi l'action sur la fiscalité. Or, on a aujourd'hui une fiscalité qui est injuste. Et d'ailleurs, en France, les mesures du gouvernement d'Édouard Philippe n'ont pas amélioré la situation, puisqu'on favorise la rente au détriment du travail. Et donc, il faut rééquilibrer les fiscalités entre le capital et le travail, la fiscalité directe et la fiscalité indirecte. Mais on peut mieux répartir les fruits de la croissance. Et on peut contribuer à résorber les inégalités. C'est une question de volonté politique. Et on a ce débat souvent au Parlement européen. Ça n'est pas un objectif partagé par tous. C'est le moins que l'on puisse dire.
Augmenter les salaires, on l'a vu aujourd'hui, Madame Gressle. Il y a un accord qui a été trouvé entre IG Metall et le patronat de l'industrie allemande. Une augmentation salariale de plus de 4%. C'est un exemple de répartition des fruits de la croissance. C'est un modèle que les Européens doivent adopter aujourd'hui, cet accord qui a été trouvé aujourd'hui entre IG Metall et le patronat allemand.
Alors attention, en Allemagne, il y a un taux de chômage dans ce domaine industriel de 2%, 3%. C'est-à-dire tout ce qui maintenant, c'est le temps pour répartir parce que le taux de chômage est très bas. Dans ma région, il y a 1,2%. On cherche la main-d'œuvre. C'est pour ça que ce n'est pas une recette pour tout le monde.
Ça signifie qu'on peut se permettre ce genre d'augmentation quand on est en situation de plein emploi.
Voilà, c'est ça. Et c'est clair que les livres sont pleins. Il leur faut la main-d'œuvre, il leur faut avoir des postes de travail attractifs. Sinon, maintenant, nous, on cherche désespérément la main-d'œuvre. Et c'est un vrai problème. C'est pour ça que pour la concurrence dans l'industrie, c'est un grand point. Et le reste aussi qu'ils ont négocié, je crois qu'il ne faut pas appliquer la même recette à tout le monde.
Monsieur Calvet-Chambon, et on ira au standard après.
Oui, ce que je veux dire, c'est que... Il ne faut pas se tromper sur les inégalités. Il faut prendre des dynamiques qui vont les changer. Elles ne dépendent pas tellement des politiques sociales. Les politiques sociales sont pour pallier aux graves inégalités, par exemple la pauvreté et tout ça, qui sont intolérables, intolérables. Mais ce qui va réduire les inégalités, c'est précisément le modèle de croissance et ce sont les politiques économiques, d'investissement, fiscales et tout ça. Et là, il y a énormément à faire. Maintenant, pour ce qui est le salaire, c'est un point d'équilibre dans un marché. Et il faut respecter, parce que ce que la crise a aussi beaucoup coûté, ce sont des milliers d'entreprises qui ont fermé. Et ça, c'est ce qu'il faut éviter, parce que là, ça fait salaire zéro. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est ce que les Allemands ont fait. C'est-à-dire laisser les conventions, les accords sociaux décider le bon salaire, parce que les syndicats sont là pour ça, précisément pour améliorer la redistribution. Améliorer la redistribution, ce qui dans un pays de PME n'est pas facile. Parce que si vous fixez les salaires, ou quoi que ce soit, à travers l'administration, vous bousillez simplement la compétitivité des entreprises.
On retourne au standard 0145 24 7000. Lionel, vous nous appelez de Marseille. Bonsoir Lionel, on vous écoute.
Bonsoir à tous. Ma question, elle est, est-ce qu'on ne peut pas se servir de ces richesses créées et de cette belle croissance pour réellement mettre en place une harmonisation fiscale au niveau européen, on va dire arrêter, enfin peut-être avant de réfléchir à des nouveaux projets, peut-être arrêter les fuites et pour se concentrer réellement là-dessus. On en parle, je suis sûr que tout le monde en parle et qu'il y a plein de papiers là-dessus et qui doivent être assez intéressants à lire ou pas du tout, mais peut-être que ça y est, il faut arrêter de parler, se mettre réellement dans cette action-là. Factuellement, et probablement que derrière, tout le monde à la table là sera d'accord, mais qu'après, derrière, il y a du lobbying, il y a des entreprises, il y a qui ont des réelles ressources financières. Donc peut-être, voilà, à quand est-ce qu'on va réellement s'occuper de ça et peut-être réfléchir à cette influence des entreprises à travers les lobbying qui passent à travers les oreilles des députés et à travers leurs stylos sur les bouts de papier. Merci beaucoup.
Merci Lionel, vous nous appeliez de Marseille. Emmanuel Morel vous répond, l'harmonisation fiscale qu'on attend depuis des années, qui n'aura sans doute jamais lieu parce que les États ne veulent pas. Emmanuel Morel.
C'est bien le problème, c'est-à-dire que on nous dit l'Europe doit être un espace de solidarité et de coopération. Or le problème et la réalité, c'est qu'en son sein, les États se livrent à une compétition totalement déloyale sur les questions fiscales et sur les questions sociales. Et d'ailleurs, ça détourne de l'Europe une partie de nos concitoyens qui ne comprennent pas que les États se fassent ainsi la guerre. Sur l'impôt sur les sociétés, c'est particulièrement vrai. C'est-à-dire que votre voisin va baisser l'impôt sur les sociétés au maximum pour faire venir à lui des entreprises qui, normalement, devraient être en France ou en Allemagne, prenons le cas du Luxembourg, hein, et que ça crée une sorte de concurrence déloyale. Donc l'harmonisation fiscale, elle est impérative. Mais le problème, c'est qu'un certain nombre d'États ne veulent pas en entendre parler parce que c'est ainsi qu'ils créent, d'ailleurs artificiellement, leur propre croissance. On a des exemples, hein, pourquoi pas le dire. Par exemple, l'Irlande s'est reconstruite économiquement en jouant du dumping fiscal. La deuxième chose qui est très importante, parce qu'il parlait des entreprises et du rôle qui surévalue, à mon avis, du lobbying au Parlement européen, rassurez-vous, on n'est pas très sensible à ça. En revanche, il y a un sujet majeur, c'est évidemment la lutte contre l'évasion fiscale et l'optimisation fiscale. Et là, pour le coup, il faut le dire à vos auditeurs, l'Europe a pris le sujet à bras-le-corps. Depuis les scandales Paradise Papers, LuxLeaks, Panama Papers, nous avons créé plusieurs commissions d'enquête et nous sommes en train de légiférer pour faire en sorte qu'il ne soit plus possible d'encourager une véritable industrie de l'évasion fiscale en Europe. Ça prend beaucoup de temps, ça rencontre beaucoup de réticences, ça pose d'autant plus de problèmes qu'au sein de l'Union européenne, il y a ce qu'on pourrait dire des paradis fiscaux. C'est pas les pays qui sont représentés autour de la table, mais c'est quand même la vérité. Mais en tout cas, c'est un sujet sur lequel nous convergeons politiquement et sur lequel nous travaillons. Donc beaucoup de choses doivent être faites, mais en effet, l'harmonisation fiscale, ça reste un objectif prioritaire si on veut donner du sens à l'Europe de la solidarité et de la coopération.
Madame Gressler.
C'est l'unanimité entre les États, c'est ça le problème. Je crois que l'Europe, je ne peux que vous donner raison, l'Europe, ces derniers 3 ans, a vraiment fait des pas énormes là. Et c'était grâce aussi au scandale qu'on a eu. Et sans ça, on n'aurait jamais pu accéder à ce qu'on a maintenant. Mais ce n'est pas encore fait. Mais je crois aussi qu'il faut être, qu'il faut voir le problème. C'est un problème très complexe. En Allemagne, nous avons les structures des entreprises de famille dont l'entreprise fait partie de la fortune personnelle, privée, mais c'est pas vraiment fortune, c'est vraiment tous les ouvriers. C'est pour ça que je crois que si on parle d'inégalité, il faut différencier plus qu'on le fait.
Il y a quelques années, il y avait un projet d'harmonisation fiscale entre la France et l'Allemagne. Où est-ce qu'on en est de ce projet? Il est aujourd'hui aux oubliettes, on n'en parle plus, c'est revenu dans les discussions entre les Allemands et les Français, entre Emmanuel Macron et éventuellement Angela Merkel, si elle arrive à trouver un accord de coalition.
Je crois que ce serait une très bonne chose si on pouvait revivre ce projet-là. Mais dès que les choses deviennent concrètes, alors c'est le blocage de part et d'autre, parce que c'est la souveraineté.
Monsieur Calvé-Chambon.
C'est ça, c'est-à-dire, bien sûr que j'appuie ce qu'ont dit mes deux collègues. Et ça fait très longtemps que je lutte pour une certaine harmonisation fiscale, très urgente dans ce qui est le rapport des sociétés, l'impôt sur les sociétés, assez urgent également sur la TVA, également. Ça égalise un petit peu le modèle de société que l'on veut. Peut-être on pourrait attendre un peu plus sur l'impôt personnel, disons. Parce que, en effet, on ne gagne pas la même chose à Chypre qu'en Allemagne, qu'en Andalousie. Mais c'est ça, c'est-à-dire, ça fait partie du modèle que l'on veut construire. Et ne parlons pas dans l'eurozone, en plus. Dans l'histoire, il n'y a pas eu d'unité monétaire qui est marché et connu, qui n'ait pas eu une unité politique pour la soutenir, première chose, et deuxièmement, une certaine unité fiscale, comme par exemple les États-Unis. Donc, et si on ne va pas dans ce sens-là, on court à notre perte d'une façon ou de l'autre. Oui. Donc, par conséquent, c'est tout à fait nécessaire. Maintenant, que cette unité fiscale qui est indispensable pour créer un grand espace économique aille combattre les dynamiques inégalitaires, c'est à voir. Parce qu'une fois que vous avez ça, après, il y a la volonté politique de le faire bien, dans un sens ou dans l'autre.
En direct du Parlement européen, sur France Inter, une question ce soir. Comment répartir les fruits de la croissance au 01 45 24 7000? On retrouve Catherine qui nous appelle de Saint-Nazaire. Bonsoir Catherine.
Oui, bonsoir. Je vous appelle parce que je ressens un peu de gêne à entendre des propositions qui continuent dans le manque de changement. C'est-à-dire que j'aimerais, si c'est possible, qu'on ait ensemble, non pas un raisonnement économique ou qui continue ce qui existe déjà, mais une vraie pensée. Et ma question, ça serait, à quoi ça sert la croissance? Non pas sur la forme, sur le fond, parce que moi, ce que je vois, c'est un grand mélange de jeux mille bornes et Monopoly. C'est des chefs d'État à genoux devant la création d'emplois qui cherchent à tout prix à rester dans une compétition, une concurrence. On ne voit pas le but et on ne sait pas à quoi ça sert, si ce n'est qu'il y a des dégâts collatéraux énormes, environnementaux et humains, qu'à un moment, il faudra bien regarder. Donc moi, ma question, elle est toute simple et j'aimerais une pensée. À quoi ça sert la croissance?
Merci Catherine de votre question. À quoi ça sert la croissance? On en revient un petit peu à la question que posait Frédéric en début d'émission. À quoi sert la croissance? Emmanuel Morel.
Non mais moi, ce que je comprends dans la question de l'auditrice, c'est que trop souvent, nous parlons des grands équilibres économiques avec des chiffres faramineux, des dizaines et des dizaines de milliards d'euros, et qu'évidemment, ça reste totalement abstrait. Ce qu'il faut parler, notre rôle de dirigeant politique, c'est de toujours ramener ces questions économiques à la réalité concrète et quotidienne de la vie des gens. Donc, à quoi ça sert que la croissance? Quand c'est une bonne croissance, et j'y reviens sur l'altercroissance, ça sert, par exemple, à avoir plus de revenus, pour avoir moins de problèmes en fin de mois, avoir une alimentation de qualité, avoir accès à un logement décent. Et ce qui compte, c'est que la richesse soit bien redistribuée et répartie. Mais évidemment que ça sert. Mais encore une fois, je comprends ce qu'elle veut dire, c'est-à-dire que à trop rester abstrait et s'échanger des chiffres comme ça, les gens ont parfois l'impression qu'on n'a pas de prise concrète sur la réalité. Mais en vérité, c'est quand même le quotidien des gens qui nous préoccupe et qui nous obsède. Moi, et souvent le problème, c'est que derrière les chiffres de la croissance, là on se félicite, on dit ça augmente, mais dans le même temps, comme dirait le président de la République française, pour une fois, je lui reprends une formule, la pauvreté reste à un niveau très préoccupant.
Absolument.
C'est le cas en France et c'est le cas même en Europe. Et la vraie question aujourd'hui, c'est comment on peut mobiliser ces surcroît de croissance pour lutter contre la pauvreté endémique en Europe qui défigure notre continent et qui défigure des régions entières. Et c'est là qu'on retrouve une ambition que j'espère partager pour une vraie politique d'investissement dans l'Union européenne, pour une relance de l'activité.
Une vraie politique d'investissement, là, ah oui. Je vous pose la question à tous les trois, sachant qu'il y a tout simplement déjà un débat sur le budget de la zone euro, le budget des 27. Personne n'est d'accord pour mettre en place des moyens communs, justement, effectivement, pour répartir au mieux les chiffres de la croissance. Donc, commençons peut-être, je vous demande une réponse, mais commençons peut-être par mettre un budget commun qui permettrait effectivement de faire l'investissement. Monsieur Calvet-Chambon.
Oui, là, cette fois-ci, j'ai été très clair. Non, donc quand même répondre à la dame de Saint-Nazaire, dont j'ai visité les chantiers. Écoutez, non, il faut être sérieux. C'est-à-dire, on n'a jamais, sur la planète, vécu autant de personnes, ni tant même aussi bien, sauf... Il y a des petits cycles économiques, mais quand même. Donc la croissance, ça sert à quoi aussi? Ben, ça sert à pouvoir financer des recherches en médecine, à pouvoir financer des recherches en production agricole. Ça sert quand même à que... Parce que une autre chose, c'est qu'entre les riches, même les pays riches et les pauvres, la différence est augmentée, dramatiquement. Ça, c'est vrai. Mais même les pauvres vivent mieux qu'il y a 100 ans. Et ça se doit à une croissance. Bon, ça, première chose. Quand même, ne remettons pas la dynamique au total. Maintenant, sur ce que vous dites, c'est très vrai. Écoutez, il n'y aura pas d'Europe tant qu'on parlera d'un budget de 0,9% du PIB de toute l'Europe, ou d'un pourcent.
0,9%, on va donner un chiffre un peu plus précis, parce que 0,9%, ça veut rien dire. 1%, ça fait combien de milliards d'euros?
C'est simple budget de... Oui, c'est ça, un petit peu moins de 160.
160 milliards d'euros,
mais un autre chiffre,
c'est pas suffisant.
Les États-Unis, hein, ils en sont entre 20, à peu près à 22%. Alors, mais qu'est-ce qui arrive avec le budget européen? Le budget européen, c'est tout simple, c'est une redistribution entre pays. L'Allemagne en apporte plus et ça retombe sur l'Espagne qui fait des politiques nationales. Mais des politiques européennes, la défense, la nouvelle technologie, le système énergétique, il n'y a plus d'argent pour payer ces grandes politiques et politiques structurelles même, dans les transports, etc. Donc il faudra en arriver là. Je dis simplement une seule chose, et là j'en parlais ce matin avec M. Arthuis, il faut en arriver là sans taper sur... Encore sur le dos des taxpayers, non? Des
contribuables.
Des contribuables, exactement. Il faut simplement déplacer certaines, et ça c'est la souveraineté qui est en kikine, mais il faut déplacer certaines fonctions, certaines activités vers un centre européen. Je donne un exemple auquel je crois beaucoup, une CIA et un FBI européen pour beaucoup mieux nous protéger. Maintenant, pas en sus, c'est-à-dire en remplaçant une partie, évidemment, des services de renseignement nationaux. Et c'est parce que si on va encore augmenter et sur les contribuables, évidemment, ça ne tient plus debout, non?
Madame Gosselin.
J'aime pas cette idée de la redistribution, de la distribution. Dès qu'on distribue l'argent, on fait bien, on investit. Dès qu'on ne fait pas ça...
Sans parler de redistribution, de politique d'investissement.
Oui, c'est ça. À mon avis, il faut d'abord gagner l'argent. C'est pour ça que je comprends pas pourquoi...
L'argent, on est en train de gagner justement avec le retour de la croissance.
Voilà, c'est ça. Mais il faut des postes de travail. La lutte contre le chômage, c'est pour moi le premier devoir. Et ce devoir, c'est le devoir des États membres et des entreprises. Alors, il faut aider les entreprises pour qu'ils créent des emplois. Sinon, c'est la pauvreté. Alors, créer des emplois, avoir des emplois vraiment qui tiennent la route, c'est la mesure la plus importante contre la pauvreté. Et à mon avis... Ce n'est pas le budget européen qui va régler l'affaire. Ce n'est qu'une compétence partielle que l'Europe a. Heureusement, parce que je crois que les États ont une large responsabilité. D'ailleurs, ils dépensent plus que la moitié de leur budget national pour le social, et en Allemagne, et en France, et dans beaucoup d'autres pays. C'est-à-dire, là, beaucoup de choses se font. Et je crois qu'il faut encore travailler plus pour mieux distribuer, pour mieux dépenser l'argent européen. Là, je suis contre le budgétaire, j'aurais des critiques ferventes là-dessus quand je vois certains gaspillages d'argent, franchement.
Emmanuel Morel, oui. Et on retournera au standard.
Alors là, j'apporte une appréciation un peu divergente. Moi, je ne crois pas qu'il faille opposer la lutte contre le chômage et la redistribution. la feuille de paie n'est pas l'ennemi de l'emploi. Et parfois, même, c'est un cercle vertueux, c'est-à-dire augmenter la redistribution, par exemple, augmenter les salaires, ça contribue aussi à relancer l'activité économique, notamment dans les milieux les plus pauvres, qui consomment davantage, il faut qu'ils consomment mieux, et ça, c'est ce qu'on disait sur l'altercroissance. Donc, il ne faut pas les opposer. Ensuite, sur le budget européen, la vérité, c'est un budget rikiki.
Mais rikiki.
Qui permet peu d'investir, puisque la grosse partie, pour que les auditeurs comprennent, du budget européen, c'est en gros les fonds structurels et la PAC. Voilà. Et pas grand-chose d'autre.
Fonds structurels qui sont destinés aux régions, au développement des régions.
Exactement.
Hein, mais destinés aux pays pour qu'ils leur fassent.
Si on veut être crédible en disant on veut une Europe ambitieuse, on veut une Europe puissance, il faut intervenir massivement. Et nous ne le faisons pas parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de ressources propres pour l'Union européenne. C'est juste des contributions des États. Donc par définition, comme ils tiennent à leur argent, ce qu'on peut comprendre, on en reste à ce budget rikiki, presque en diminution. Alors même que ça a été très justement souligné, dans un État comme les États-Unis, 20% du PIB, là je peux vous dire que vous avez de l'argent pour relancer la machine et pour investir dans des chantiers structurels. Parce que l'Europe, franchement, qui se targue d'être le premier marché au monde, avec des chercheurs, des scientifiques, des entreprises qui innovent, on aurait largement de quoi faire pour assumer ce leadership qu'on prétend avoir.
Monsieur Calvet-Chambon, on ira au standard.
Je voudrais répondre deux choses à madame. La première, c'est qu'il y aurait moins de gaspillage s'il y avait une unité européenne qui contrôlerait ses distributions et ses investissements. Le gaspillage se doit beaucoup au fait qu'après on laisse à chaque État faire ce qu'il fait. Et deuxièmement, là où je ne suis pas d'accord avec elle, c'est que les affaires sociales, c'est les États qui s'en occupent. Ça doit se dépasser,
les
à mon avis.
Les compétences budgétaires aussi, monsieur Calvet-Chambon, c'est très bien que les compétences budgétaires, c'est une prérogative des États.
Et j'espère que dans la prochaine convention, ça se dépassera. Maintenant, on a besoin aussi d'une vision d'une Europe sociale et d'une vision de solidarité européenne dans le social également, à mon avis. Là, enfin, c'est un débat.
Après, vous avez le devoir, sans avoir les possibilités. Et c'est pour ça que c'était une grave erreur que l'Europe donne de l'argent pour lutter contre le chômage des jeunes, parce que le résultat en est que l'argent ne part pas, qu'après on ne fait que réveiller des attentes et tout le monde est déçu de l'Europe. C'est les États membres qui sont responsables, mais nous, les Européens, on fait semblant comme si c'était de notre responsabilité. Alors, encore un point où les gens disent « mais cette Europe-là, ça ne vaut pas la peine ».
Vous êtes contre le plan Juncker, par exemple,
qui consiste
à investir massivement pour relancer l'activité.
J'ai parlé de l'initiative jeunesse, qui ne fait que des promesses.
Mais moi, je trouve, je suis d'accord. Il n'y a pas assez de résultats sur le terrain. Mais que l'Europe prétend lutter contre le chômage, je trouve ça plutôt bien, alors même que ça fait des années qu'on nous bassine avec une seule chose, la lutte contre l'inflation, la lutte contre les déficits. Bah, pour une fois qu'il y avait un peu cette priorité, même si ça n'a pas été suivi des faits, moi, je l'ai salué. Le problème, c'est qu'on reste enfermé dans des dogmes, notamment sur la politique budgétaire, qui nous rendent incapables d'investir pour une Europe qui protège et qui est ambitieuse. Moi, c'est ça que je regrette le plus.
Je crains que la réalité est plus compliquée. D'une partie, on commence à régulariser, à couvrir les banques des règles très sévères. Il y a de bonnes raisons. Bon, de l'autre, les banques ne peuvent plus investir. Maintenant, c'est encore la force publique qui doit mettre des investissements. Tout le monde se plaint que ça ne suffit pas. Alors, je crois qu'il faut regarder intégralement ce que nous on fait ici. Et là, on aura des résultats assez surprenants.
Le problème des banques, c'est qu'elles redistribuent beaucoup de dividendes, mais qu'elles n'investissent pas beaucoup. Ça, c'est vrai.
On retourne au standard au 01 45 24 7000 sur France Inter. Nice, vous nous appelez de Paris. On vous écoute. Il semble de Paris. Nice, est-ce que vous nous entendez ? Bien, visiblement, on a un petit problème avec le standard. Moi, je voulais vous poser une question. Ce retour de la croissance pose un problème. Visiblement, c'est un problème de recrutement. Visiblement, des pays comme la France, même comme l'Allemagne, on en a parlé tout à l'heure, Madame Gressler, avec le problème démographique, mais il y a un vrai problème de recrutement, donc d'inadéquation, visiblement, de la formation avec les demandes que les entreprises ont sur le terrain. Comment est-ce qu'on résout ce problème ? Madame Gressler.
Je crois qu'il faut mieux former les jeunes. Et bon, là, mais il faut les avoir, les jeunes. C'est pour ça que maintenant, nous, on cherche désespérément. On va mobiliser les femmes, on va mobiliser des réfugiés, on va mobiliser des migrants. Mais c'est un chemin très long et très dur. Ça, c'est clair. Alors, la croissance du futur, la richesse future de l'Europe, c'est dans la question de savoir est-ce qu'on trouvera encore les gens ou pas. C'est pour ça que c'est une question très, très préoccupante.
Monsieur Calvé-Chambon ?
Sous cette question, il y a une question que l'on traite moins souvent, mais qui était très préoccupante, aussi bien en Allemagne qu'en Espagne, et d'ailleurs qu'au Japon, et c'est la question démographique. Hein, c'est-à-dire aussi, nous sommes un continent vieux qui perd de plus en plus d'habitants. Ce qui a l'air peu encourageant pour l'Europe, il va falloir s'y mettre. Maintenant, comment récupérer les jeunes de cela ? Évidemment, c'est dans l'éducation, et évidemment, c'est dans la formation professionnelle également, qui est très délaissée dans beaucoup de pays, comme le mien, c'est-à-dire l'Espagne. Et nous, c'est pour là que je lutte pour un Erasmus+, qui serait l'Erasmus pour la formation professionnelle. Mais évidemment, c'est pas d'un jour à l'autre. Et il faut faire beaucoup plus d'investissements. Mais d'investissements structurels grands au niveau, comme la Tennessee Valley Authority, au niveau européen, dans les transports, dans les grands, la politique de l'eau, par exemple. Bon, la politique environnementale, n'en parlons pas, mais pas le petit truc de machin vraiment de grande, de ambitieuse, non? Et c'est là où souvent se créent des postes de travail de qualité, hein, et qui devraient absorber petit à petit nos jeunes.
Au standard 0145, Emmanuel Morel, juste et après on ira au standard.
Ce problème de recrutement ne s'ose pas dans tous les secteurs.
Absolument.
Il y a certains secteurs, mais absolument, pour une raison simple. D'abord, il y a la question de l'appareil de formation. En effet, il faut mettre le paquet sur la formation professionnelle et l'apprentissage. C'est le cas en France, en tout cas insuffisamment. Mais il y a aussi des secteurs qui sont peu attractifs parce que les conditions de travail, les conditions de rémunération ne donnent pas envie. Et c'est aussi au patronat, dans certains secteurs, de faire cet effort-là. Or, pour l'instant, ça n'est pas le cas.
Au 0145 24 7000, Michel, vous nous appelez de Périgueux. Bonsoir, Michel, on vous écoute.
Oui, bonsoir à tout le monde.
On vous écoute, posez votre question, Michel.
Oui, voilà. Moi, j'ai travaillé 12 ans dans le privé. Le restant de mon travail dans l'administration, j'ai 1500 euros de retraite. On me parle de 2% d'augmentation du PIB, enfin de croissance. Moi, ce que je vois, c'est que sur mes relevés de retraite, j'ai 2% de plus à payer sur les cotisations, CSG, ainsi de suite. Donc à quoi me sert cette croissance ?
Merci Michel pour votre question. À quoi sert la croissance, effectivement, pour des retraités qui ne voient pas leur retraite augmenter ? Madame Gosselin ?
Tout à fait.
Là, on est au cœur du problème. C'est la redistribution, visiblement, elle ne va pas jusque, oui. Elle ne touche pas certaines catégories de personnes.
Voilà, c'est ça. Et dès que les prix augmentent parce que la croissance se trouve ailleurs, alors ils vont encore perdre plus. Dès que les taxes augmentent, ils vont encore perdre plus. C'est pour ça que les choses, ils tiennent beaucoup ensemble. C'est pour ça qu'il faut plutôt faire attention il faut vraiment regarder avec chaque mesure qui est-ce qui est visé et quel sera le résultat. Je crois que les retraités, ils ont un peu partout ce problème-là dans tous les pays d'Europe. C'est pour ça que, à mon avis, l'augmentation des pensions, c'est aussi une grande question, aussi en Allemagne, parce que nous, on voit comment les retraités ils commencent à être pauvres maintenant.
Monsieur Morel, Emmanuel Morel.
Notre auditeur pose la même question, finalement, depuis le début de cette émission, c'est-à-dire que les fruits de la croissance sont mal répartis. Et il y a des gens, François Mitterrand fustigeait ceux qui s'enrichissaient en dormant, mais c'est la vérité. Et ceux qui s'enrichissent en dormant gagnent beaucoup plus que le retraité dont on parle, qui lui, en plus, comme il est français, vient d'avoir une augmentation de la CSG substantielle et un certain nombre de taxes qui vont compliquer davantage sa vie quotidienne. Donc vraiment, encore une fois, la question, c'est celle de la répartition des fruits de la croissance. Et là-dessus, il y a un débat à avoir entre nous. Il y a le débat en France. Manifestement, il a été tranché par Emmanuel Macron dans le sens de favoriser les plus aisés, puisque plus de la moitié des mesures fiscales profitent exclusivement à ceux qui ont le plus d'argent, là où moi je préconiserais, mais c'est le cas de mon groupe au Parlement européen, le groupe social-démocrate, de donner davantage à ceux qui en ont vraiment besoin. C'est un débat politique.
Il y a aussi un vrai souci avec ce retour de croissance, c'est que l'emploi se porte bien. Hein, on a vu les chiffres, il diminue, on est à 8%, ça va peut-être sans doute descendre encore un peu plus, mais c'est de l'emploi extrêmement précaire. J'ai cité un chiffre, M. Calvé-Chambon, je vais vous demander de le commenter. En Espagne, 21 millions de contrats ont été signés, mais 19 millions de CDD. Oui. Comment est-ce qu'on fait en sorte que cette croissance ne soit plus une croissance d'emploi précaire ?
Oulala, alors là, ça va être très difficile, je l'avoue tranquillement. Et ce qu'il y a, c'est qu'un pape précaire ne veut pas dire mal rémunéré. C'est ce que je m'occuperai surtout. Pourquoi ? Mais parce que le monde change, les conditions changent, et ce qu'on appelle travail change, et ce qu'on appelle même relations syndicales change, et nous allons avoir affaire à beaucoup de travaux, n'est-ce pas, qui vont être très différents de ceux dont on était habitué et qui vont avoir besoin de toute une flexibilité. Alors, le Parlement, là, je dois le dire, se penche là-dessus. J'étais du groupe avec Mme Joan Rodriguez et M. Van de Keller pour parler de nos deux groupes représentés ici. Je suis allé à Göteborg, il y a le pilier social. Et un des soucis, maintenant, c'est très difficile de saisir vraiment le problème, c'est comment, aux nouvelles conditions de travail, donner un minimum de sécurité, qui est la précarité. Maintenant, beaucoup de ces travaux précaires, comme par exemple ces jeunes qui sont là avec 4 ordinateurs et qui attendent un coup de fil de celui qui va lui demander, etc., sont bien payés, hein, ils vivent très heureux. Donc, il faut pas, la précarité ne signifie pas le. Maintenant, par exemple, pourquoi l'Espagne est en train de croître plus que l'Italie ou la France? Bon, d'abord parce qu'elle parle de beaucoup plus bas, hein, nous étions à 27%, et deuxièmement parce qu'elle s'est montrée plus flexible à la sortie. Alors évidemment, ça fait pas plaisir aux syndicats.
Est-ce qu'aujourd'hui elle s'est montrée plus flexible, mais est-ce qu'aujourd'hui on apporte de la sécurité?
Je pense pas.
Alors est-ce qu'à terme il faudra apporter de la sécurité?
Oui, mais en ce moment non. C'est-à-dire en Espagne, oui. Je veux dire, je ne pense pas qu'en ce moment.
Mais ça viendra avec la croissance.
Oui,
on a vu la même chose en Allemagne. Plus longtemps il y a croissance, plus il y a des postes de travail indéterminés, plus les salaires peuvent monter. Tout ça, c'est pour ça que c'est un début promettant, mais il faut que ce soit un début, seulement un début. Oui, les gens ont besoin de sécurité.
Mais vous parlez de l'Allemagne et ça tient très bien, je crois que c'est les mesures de M. Schröder qui ont fait tout ça. Beaucoup des travaux précaires que l'on dit, c'est ce qu'il a installé en Allemagne, mais au moins il a inséré les gens.
C'est pas défendu pour les socialistes d'avoir de bonnes idées aussi.
Oui, bien sûr. Et surtout, il a inséré quand même les jeunes dans le monde de la production, etc. Seulement, qu'est-ce qu'il y a? Il faut y avoir pour cela, d'abord, des taux de chômage plus ou moins raisonnables. Vous savez, quand on a vu qu'à 27%, c'est vrai. Et surtout aussi, des minima, des standards minima solides, hein, pour ne pas tomber dans la pauvreté.
Des standards minima qui restent des standards nationaux, qui ne sont pas encore des standards
qui
européens.
Qui ne sont pas encore des standards européens. Et quand il y aura des standards européens, là je rejoins M. Morel, mais je ne sais pas si Madame sera d'accord avec moi. Il faudra qu'il y ait de la solidarité européenne. Si on veut dire, et même pour les revenus minima, pour les pensions minima, écoutez, on trouve de la solidarité pour payer une politique de défense, comment ne pas trouver de la solidarité pour avoir un level playing field, c'est-à-dire un terrain de jeu avec des minima au niveau européen.
Emmanuel Morel ?
Non mais il y a quand même une réalité...
30 secondes pour conclure.
La réalité, c'est l'explosion des travailleurs pauvres en Europe. Oui. Et ça, c'est comme un souci majeur. Et ça ne se réglera pas uniquement avec la croissance. C'est aussi un rapport de force qu'on doit construire pour être favorable au monde du travail. Vous parlez de solidarité. Je voudrais dire un mot quand même, parce qu'il y a des pays qui ont été défigurés par des politiques d'austérité. Je pense notamment à la Grèce, hein, qui a perdu 25% de son PIB en 5 ans, avec des gens dont les salaires ont baissé drastiquement, les retraités. Et si vraiment l'Europe, elle prétend être solidaire, c'est aussi ces peuples-là qu'il faut aider, prioritairement.
Merci à tous pour avoir participé à cette émission. Merci à la réalisation Fabrice Legge à Paris, assisté d'Amélie Stadelmann. Vous êtes sur France Inter, il est pile poil 20h.